Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième saison des Incorrectibles sur Sud Radio. Et en cette rentrée, à cette occasion, je suis particulièrement heureux de vous présenter un débat plus que jamais d'actualité sur le thème laïcité, liberté d'expression, quelles limites. Un débat en direct d'une heure que vous pouvez également suivre en live sur Facebook. Alors face à face pour en débattre. D'un côté, il est délégué national du Rassemblement National. D'origine égyptienne, il est naturalisé français à l'âge de 20 ans et se considère comme, je cite, un français de souche. Par naturalisation, il s'emploie à dénoncer tout ce qui, selon lui, porte atteinte aux valeurs de la France. Jean Messia, bonjour.
Bonjour.
Alors, on voit beaucoup dans les médias, mais vous avez vraiment la confiance de Marine Le Pen, Jean Messia, parce qu'au sein du parti, on a l'impression qu'on vous entend moins là, pour le coup.
Bah, vous savez, le Rassemblement National est un grand parti. Marine Le Pen gère plusieurs cadres, plusieurs militants. Donc bon, voilà. Et puis, on est des grands garçons, si vous voulez. Elle nous fait confiance. Donc, on n'a pas, on ne lui passe pas un coup de fil tous les matins. Mais effectivement, on a des instances qui permettent de coordonner l'action du mouvement sous sa présidence. Donc, il y a aucun souci là-dessus. Et puis, quand on va dans les médias, c'est les médias qui font les grilles programmatiques. Ce ne sont pas les partis qui appellent les médias pour dire « envoyez un tel » ou voilà. Donc, les choses se font comme elles doivent se faire par rapport aux médias et par rapport au mouvement.
Enfin, vous avez la confiance?
Ah bah évidemment, sinon je ne m'exprimerai pas comme je m'exprime.
Non, mais voilà.
Encore heureux.
Non, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas souvent en tête de liste.
Non, mais vous savez, je suis assez jeune en politique. Hein. Ça fait jamais que 3 ou 4 ans que je suis ouvertement en politique. Et donc, je pense que voilà, les choses doivent se faire au moment où elles doivent se faire, tout doucement, mais sûrement.
Eh bien, on suivra ça. Et puis, face à vous, Jean Messia, la présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires, française de confession musulmane, elle défend musulmane.
Je ne sais pas où vous avez eu ça.
Non,
mais pas. Je ne sais pas qui a pu vous confier ma moindre croyance. Ouais, non. Bah, je ne crois pas que vous m'aviez posé la question.
Non, mais c'est l'occasion de vous la poser, vous n'êtes pas.
Je n'ai pas particulièrement envie de répondre à cette question. En
d'accord.
Fait, mais non, je ne m'affiche
d'accord.
pas comme ça, ni aujourd'hui, ni dans le passé, ni dans le futur.
Mais ça pourrait être un sujet pour vous de confier votre religion.
Non, en fait, ce que je trouve surprenant, en fait, c'est qu'on affirme quelque chose que je n'ai jamais exprimé.
D'accord, bah autant pour moi. Alors j'ai pensé peut-être par vos propos, mais j'ai peut-être fait un raccourci.
C'est justement toute la difficulté.
Vous défendez les valeurs de la République et vous
exactement.
Entendez combattre l'obscurantisme et les discriminations. Rose Ameziane, bonjour.
Bonjour.
C'est parti pour les incorrects. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Alors justement, merci de m'avoir fait cette remarque, puisque justement on va faire une courte digression avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au sujet de ce débat. On va revenir justement un court moment, si vous le voulez bien, sur la polémique justement suscitée par certains de vos propos. Rose Ameziane, c'était lors d'un gala de charité. Excusez-moi, j'ai pu quand même, peut-être à tort, mais quand même, c'était pour un gala de charité pour une mosquée de Mitri Mori. Donc j'ai pu à tort penser que si vous étiez à ce gala, vous étiez peut-être de confession musulmane, surtout parce que vous aviez cité cette phrase donc lors de ce dîner de charité. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une demeure au paradis. Je pense qu'on a tous des choses à se faire pardonner, alors donner un maximum pour ce beau projet. Voici alors ce qu'a répondu, donc c'était sur Twitter, Jean Messia, suite à ses propos et à cette vidéo qui est apparue au cours de l'été, mais qui datait d'il y a plus de 3 ans, vous m'avez dit ça en antenne. Voici la véritable Rose Ameziane, un agent de charme au service du projet d'islamisation de la France porté par l'islam politique. Je cite, une idiote utile qui fait la manche pour soutenir frères musulmans et salafistes. Qui vous paye combien pour trahir ainsi votre pays, Rose? Alors, vous l'avez devant vous, c'est l'occasion de lui répondre.
Ah bah, je pense qu'il l'a répondu de par lui-même. Merci de revenir sur cette polémique. Cette pseudo-polémique, parce que
elle a fait les choux gras de Twitter tout l'été.
Alors, peut-être pas tout l'été, mais effectivement, j'ai eu l'occasion de répondre à Valeurs Actuelles, qui s'est fait écho, effectivement, de cette polémique sur les réseaux. Jean Messia a retweeté immédiatement après que j'ai pu faire mon droit de réponse, en expliquant qu'il prenait note de mon attachement aux valeurs républicaines. Alors, tout ça a commencé, en fait, lorsque Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, qui a été attaqué par rapport à la naissance de son enfant, Esprit Laïque, de souvenir, qui est une association, qui a retweeté en expliquant qu'il se joignait aux islamistes, aux salafistes, pour souhaiter la bienvenue à cet enfant. Et ont découlé énormément, en fait, de messages de haine, des propos qui ont été retweetés par Zineb El Razaoui et Zohra Bitton, avec qui j'ai pu débattre aussi dans les grandes gueules.
Parce que vous n'avez pas choqué l'extrême droite, enfin, vous qualifiez. C'était surtout les gens d'extrême droite, enfin, tout tout cas de la droite, à droite de la droite, qui vous avait apostrophé, pas que.
À ce moment-là de la polémique, moi je n'y suis pas concernée, je retweet en fait les retweets en fait de Zineb El Razaoui en interpellant effectivement notamment Marlène Schiappa en expliquant qu'il serait quand même bon de faire cesser un petit peu les menaces ou en tout cas les insultes à l'égard de Nicolas Cadenne. Et donc Marlène Schiappa y répond. Et il répond fermement en expliquant que la naissance d'un enfant ne doit pas justifier tout et n'importe quoi. Réponse que je retweet et qui visiblement n'a pas plu à Zineb El Razaoui et aux habitants puisque quelques heures après, on ressort cette vidéo,
c'est à ce moment-là que la vidéo
que je contextualise en plus assez rapidement. Donc vidéo où effectivement je participe il y a 3 ans à un gala, 3 ans où je ne suis pas du tout médiatisée, où je suis invitée via une radio locale, donc qui m'invite à participer à ce gala pour le financement effectivement d'un lieu de culte, donc un lieu cultuel et culturel, et donc en présence des élus, d'un rabbin, d'un prêtre. Et donc moi, on me demande tout à la fin de dire un mot pour encourager à la cagnole, exercice non préparé que je n'ai jamais effectué. Et donc je reprends une phrase qui est sur l'écran de toute la soirée en fait, où je reprends en fait une phrase qui est significative pour les fidèles qui sont ce soir-là lors du gala, en leur expliquant de manière un peu humoristique.
Enfin, excusez-moi, c'était des gens de confession musulmane.
Ah oui, c'était des gens de confession musulmane.
Donc j'avais peut-être raison de vous considérer comme peut-être de confession musulmane.
Je suis désolée, les élus qui étaient présents n'étaient pas de confession musulmane, le rabbin non plus, le prêtre non plus, et donc toutes les personnes qui étaient présentes. C'était effectivement l'organisation d'un gala pour un lieu de culte musulman.
Et vous exprimiez à titre privé
je m'exprime à ce moment-là en tant qu'invitée, parce qu'on me demande effectivement de dire un petit mot en tant qu'animatrice, entre guillemets, mais en aucun cas je suis organisatrice de ce gala, je ne suis qu'invitée, je ne connais pas toutes les personnes qui sont en plus invitées. Et donc, on essaye, donc avec cette participation, et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas sûre que le financement par des fidèles d'un lieu de culte soit aujourd'hui illégal en France. Et donc, par capillarité, on essaye de me lier à des frères musulmans, à des salafistes, avec une polémique parfaitement calomnieuse. Chose à laquelle j'ai répondu lorsque... déjà, une première fois sur Twitter, et puis lorsque... Valeurs Actuelles s'en fait écho. J'y réponds, je pense, assez clairement et assez fermement. Et je pense que la polémique est close.
Alors Jean Messia, un mot là-dessus ?
Oui, bon, on va pas revenir sur cette histoire qui, effectivement, a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Bon, je prends acte, hein, comme je l'ai exprimé sur Twitter, de votre droit de réponse. Bon, j'ai pas d'autres commentaires à dire, mais si vous voulez...
Non, mais c'est vrai que c'était une bonne question. Est-ce qu'on peut encore soutenir le financement d'une mosquée sans être immédiatement accusé de soutenir l'islam radical ?
Je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et notamment dans le contexte qui est celui de la France aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est menacée, il faut le dire, les derniers sondages le montrent, par une poussée, on ne va pas dire de radicalisation, on va essayer d'être le plus neutre possible.
40% des musulmans considèrent que l'islam est supérieur à la République.
Il y a une poussée de la religiosité, de la religiosité.
Moins de 25 ans.
Cette religiosité, comme vous avez pu le constater, elle ne concerne pas les catholiques qui demandent à ce qu'on remette des croix dans les édifices publics, ou qu'on parle du catholicisme dans la Constitution. Elle ne touche pas non plus les bouddhistes ou les hindouistes qui ne demandent rien, et elle ne touche pas non plus les juifs qui demandent juste à pouvoir vivre en tant que juif sans être menacé et à ce qu'on reconnaisse la Shoah. Cette poussée de la religiosité concerne de facto, enfin majoritairement, l'islam. Donc en fait, aujourd'hui, la question de la laïcité... Elle était close depuis un siècle, et on rouvre ce dossier aujourd'hui parce que nous avons une religion qui pose problème à la laïcité et à qui la laïcité pose problème. Donc, si vous voulez, dans ce contexte où il y a l'islam pose un problème à la laïcité parce que l'islam dit politique, c'est-à-dire l'islam qui veut ne pas considérer uniquement cette religion comme une verticalité, c'est-à-dire dans sa vie privée, dans la prière ou dans la pratique à la mosquée, mais qui entend appliquer toute la constitution économique, politique, sociale, civile qu'est l'islam, eh bien ça, c'est incompatible effectivement et avec la laïcité et de manière générale avec la République. Donc l'islam pratiqué comme une religion verticale au même titre que le christianisme ou le judaïsme, il n'y a pas de problème. Mais l'islam, lorsqu'il se fait horizontalité, c'est-à-dire lorsqu'il prétend régler des questions d'héritage, des questions d'égalité homme-femme, des questions d'organisation de la famille, eh bien ça, nous avons déjà une organisation économique, politique et sociale qui s'appelle la République. Et donc on ne peut pas voir coïncider sur un même territoire eh bien, des lois, des normes, des règles qui sont différentes. Et c'est pour ça que lorsque, Madame Amezian, vous avez été à ce gala et on a découvert la vidéo, je ne dis pas que vous-même vous êtes comme ça, mais je dis qu'il faut faire très attention parce que tout ce que nous faisons...
Votre tweet, il est un peu différent.
Tout ce que nous faisons...
Ce que vous dites est différent.
Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, mon tweet, il est calibré...
Au service du projet d'islamisation de la France.
Mais parce que
vous qui parlez d'égalité homme-femme,
mais
on
parce
est quand
que
même
le
sur
problème,
des
problèmes
très accusateurs et sexistes.
Mais le problème, c'est que encore une fois, on ne peut pas avoir des actions hors contexte. On ne vit pas dans un contexte neutre qui permettrait de dire n'importe quoi, qui permettrait de s'exprimer librement. Derrière, vous avez effectivement des gens, des organisations, des entités, voire des pays étrangers qui financent ça. La Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour lesquels l'islam de France est devenu un véritable enjeu. Eh bien, il faut faire très attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, parce que, à votre corps défendant peut-être, vous pouvez effectivement pousser sans le savoir et inconsciemment les pions de personnes qui entendent menacer la République et menacer la France. Voilà ce que je dis.
Vous dites quelque chose de très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les financements des lieux de culte, notamment des lieux de culte musulmans, c'est près de 20% par des puissances ou en tout cas par des pays étrangers. Ça pose un vrai problème. Donc à un moment donné, permettre, et c'est tout l'objet de la loi sur la laïcité, permettre à des fidèles de financer eux-mêmes, par des Français, leur lieu de culte, c'est ce que permet aujourd'hui la loi de 1905. Mais pour revenir un petit peu sur un petit peu d'histoire, depuis tout temps, nous nous sommes battus pour imposer la République, pour imposer nos valeurs, pour imposer la séparation des églises et de l'État, pour imposer le fait que nos écoles ne permettent pas un enseignement religieux. Et la construction de la République, et en tout cas de la séparation des églises et de l'État, elle ne s'est pas faite en quelques années. Ça a été un combat acharné, puisque toutes les minorités religieuses étaient particulièrement persécutées. Aujourd'hui, on se rend compte que notre loi de 1905, au final, elle protège les croyants et les non-croyants dans l'exercice de leur culte et c'est ça en fait toute la symbolique de la loi. Et là où je vais vous rejoindre, c'est que en aucun cas des lois individuelles sont là en fait pour prendre le pas sur la République. Et c'est tout l'enjeu en fait de notre loi 1905. Mais quand elle n'est pas dévoyée et quand elle n'est pas instrumentalisée par des politiques pour des raisons électoralistes.
Eh bien, on continue à en parler dans un instant, toujours avec vous, Rosa Amezian et Jean Messia, à l'occasion de ce débat. Laïcité, liberté d'expression, quelle limite sur Sud Radio dans les incorrectibles? Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h. À tout de suite.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans les incorrectibles, nous sommes toujours en direct sur les réseaux sociaux. Donc pour ce débat, laïcité, liberté d'expression, quelle limite entre Jean Messia du Rassemblement National et Rose donc Amezian du Mouvement pour l'émancipation des territoires. Alors il y a un instant, donc, vous parlez évidemment de cette vidéo qui avait fait polémique au cours de l'été et de la place donc de l'islam de France. Jean Messia, une question. Est-ce que selon vous, la France doit arrêter d'accueillir des immigrés de confession musulmane?
Bah, c'est évident, puisqu'on ne peut pas d'un côté, si vous voulez, dénoncer le séparatisme, dénoncé par le président de la République lui-même, je le rappelle, hein, donc qui n'est pas, comme vous le savez, issu du Rassemblement National. Donc aujourd'hui, il y a quand même un consensus qui se crée en France pour dire qu'il y a un séparatisme religieux, politico-religieux, à l'œuvre en France. Et donc évidemment, si on veut pouvoir lutter contre ce séparatisme et donner une chance à ce que ces séparatistes soient un jour se soumettent ou se démettent en quelque sorte, ben il faut pas alimenter ce séparatisme par l'afflux de nouveaux séparatistes, puisque un séparatisme au sein d'une république une et indivisible, c'est un casus belli, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut régler le problème. Or, on ne règle pas le problème en important ou en laissant entrer sur notre territoire des gens qui vont alimenter un séparatisme que certains vont ensuite dénoncer devant les médias. Mais je souhaite revenir à cette notion de laïcité, parce que c'est très important. La laïcité, effectivement, c'est une loi de 1905, mais c'est aussi un élément d'une identité plus large large qui s'appelle l'identité nationale. On peut pas piquer comme ça, picorer des éléments pour les sortir de l'histoire politique, économique et sociale d'un pays et prétendre raisonner dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que la laïcité ne saurait être un prétexte pour créer une sorte de désert sur lequel on va reconstruire une identité religieuse qui soit égale à ce qu'est la France en 2020. C'est-à-dire que la République, c'est pas simplement la République. La République, elle est française. Et française, ça veut dire qu'il y a un contenu dans ce contenant qui s'appelle la République. C'est-à-dire que la République, elle est laïque, mais la France est chrétienne. Elle est le fruit de plusieurs siècles, plus de 1000 ans de christianisme. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en France, ben vous voyez à tous les coins de rue des églises. Quand vous êtes sur les routes de France, vous voyez des crucifix, etc., etc. Donc on peut pas dire aujourd'hui, une religion qui s'installe en France, faut-il le rappeler, la religion musulmane ne se trouve pas en France parce que des Français de souche ou des Français historiques s'y sont convertis en masse. Les conversions sont très rares. La religion musulmane est en France parce qu'elle est arrivée avec les immigrés maghrébins, subsahariens, etc. Donc c'est un apport extérieur à la France. Donc on peut pas dire, bon, bah maintenant qu'on a ces musulmans en France, bah comment ça se fait que les musulmans aient pas le même nombre de mosquées que les chrétiens, qu'ils aient pas le même, qu'il n'y a pas les mêmes références islamiques en France, comme les références chrétiennes. Bah, précisément parce que la laïcité, c'est pas remettre le compteur à zéro. Et c'est ça que fait l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'elle utilise la laïcité pour extirper les dernières racines chrétiennes de la France et pouvoir reconstruire une autre France qui n'est pas la France.
Rosa Méziane.
On pourrait presque qualifier vos propos d'anti-républicains parce qu'en fait, le principe de la République, c'est justement de ne reconnaître aucun culte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il nie la présence de culte et la présence de croyants, mais ça veut dire qu'il ne met pas une place centrale du religieux, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au sein même du fondement de la République. Et le principe républicain, c'est justement de ne pas reconnaître les croyances et d'être égaux face à la loi. C'est ça le principe de notre République. Alors, est-ce qu'il y a une histoire chrétienne ? Bien entendu, personne ne le nie. Et ce serait une folie de les nier. Mais expliquer par vos propos qu'il y a une forme de hiérarchie en fait, des religions, non. C'est justement ce que...
Au regard de l'histoire, c'est juste factuel.
Mais personne ne le nie.
Voilà.
Mais aujourd'hui, vos propos tendent en fait, à faire croire que la place du christianisme devrait être plus prépondérante. La réalité, c'est que dans nos sociétés, on ne reconnaît pas l'identité religieuse comme une identité propre. Mais
et ça pose problème à qui, ça ? À quelle est la religion à qui ça pose problème ?
Je vous parlais tout à l'heure...
Le christianisme et le judaïsme n'ont pas de problème avec cette règle.
Vous parliez tout à l'heure de séparatisme, en tout cas de lois individuelles qui reprennent de la place dans le débat public. Moi, j'ai cru voir, lors des débats sur le mariage pour tous, des personnes qui sont de confession chrétienne, qui revendiquaient au final leur croyance et voulaient empêcher une loi républicaine de passer.
Oui, mais c'est républicain, on a le droit de manifester.
Non, mais on a le droit de manifester. Mais le faire...
Ils ont tué qui ?
Le faire au nom d'une croyance,
bah c'est quoi le
problème ? C'est là les limites de la laïcité.
Mais non, madame, vous trompez. Il y a un droit constitutionnel à la manière. Attendez, la République, c'est une démocratie. Enfin, en tout cas, nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la pluralité d'opinion. Par exemple, on en reparlera tout à l'heure sur les caricatures de Charlie Hebdo. Globalement, les gens peuvent dire.
Mais vous l'avez dit vous-même, les revendications communautaires n'ont pas leur place.
Je termine.
Sur ce principe, je vous rejoins pleinement.
Je termine juste mon propos, c'est-à-dire que vous pouvez, il y a des lois qui se prennent, d'accord ? Il y a une majorité, mais il y a aussi une minorité politique qui continue à exister et auquel, à travers la démocratie moderne que nous sommes, eh bien, la Constitution accorde des droits. Les uns peuvent prendre des lois, les autres peuvent s'y opposer dans le cadre de la loi. Ça s'appelle le droit de manifester. Maintenant, moi, j'ai pas vu d'enclave catholique, d'accord, où on prétend imposer une théocratie catholique, où on marierait les gens uniquement à l'église, où les prêtres seraient des officiers d'état civil comme sous l'ancien régime. Ça n'existe pas, d'accord.
Et c'est donc pour ça l'opposition. Qu'il faut veiller au grain.
L'opposition. Non, mais c'est pas ça le danger. Arrêtez, vous savez très bien, c'est pas ça le danger.
Lorsqu'on essaye de revenir sur les lois anti-VG. C'est, à mon sens, un véritable danger. Lorsqu'on essaye d'imposer...
Mais ils ont le droit de s'opposer, madame.
Ils ont le droit de s'y opposer, mais pas au nom de leur religion.
Si, aussi.
Mais vous dites tout et son contraire.
Non, parce
dans la même émission, ça va être complexe.
Non, ceux qui s'opposent...
La règle, elle est claire, et elle s'applique à tout le monde.
Vous m'accusez de quelque chose, je vais juste répondre à ça.
Je vous en prie.
La question n'est pas que ceux qui s'opposent veulent imposer leur religion. Ils le font au nom de leur croyance, mais ils n'imposent pas cette croyance au reste de la société. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah bah c'est tout le principe en fait de la manifestation. Leur objectif,
Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la laïcité, parce que là, il faut revenir aux sources. La laïcité, à l'origine, c'est un concept judéo-chrétien. Ça figure dans l'évangile, rendez à César ce qui est à César.
Mais c'est complètement
et
faux.
Et à Dieu ce qui est à Dieu. En islam, il n'y a pas de laïcité.
Vous êtes complètement dans l'erreur. Historiquement, entre 1880 et 1886, on s'est battu justement sur les lois de laïcisation.
Je vous parle de la.
Pour expulser l'Église de nos écoles.
Non mais je suis tout à fait.
Donc expliquer en fait et d'ailleurs même les minorités étaient persécutées, notamment les communautés israélites. Donc expliquer aujourd'hui que la laïcité serait l'enfant en fait de l'Église.
C'est vrai. C'est...
Mais non, on
non,
a parlé
de l'Église.
Mais
l'enfant.
Non, on a parlé
non,
de la guerre.
C'est l'enfant. Non non, j'ai cité l'Évangile. C'est l'enfant du texte chrétien à l'origine.
Non, mais la laïcité, attendez. On a parlé de la guerre des deux Frances. La France fille aînée de l'Église et la France patrie de la République.
Exactement.
Et donc, ces deux Frances se sont opposées
vous rappelez ce qu'il a fallu faire à la fin du 19e siècle, justement, pour abattre l'influence de l'Église catholique ? On a expulsé des milliers de religieux, notamment des jésuites. La République a sorti l'armée face aux congrégations catholiques de l'époque pour pouvoir faire marcher l'Église catholique au pas. Qu'attend aujourd'hui la République française pour faire pareil.
Vous êtes extraordinaire. Voilà. Vous dites tout et son contraire. Si d'un côté la laïcité est fille de l'Église, qui est complètement faux.
J'ai pas dit fille de l'Église, j'ai dit fille du christianisme. C'est pas la même chose. Par exemple, je suis chrétien, je suis pas catholique.
Non mais honnêtement j'invite vraiment chaque auditeur à aller relire la loi de 1905 parce que c'est important de comprendre qu'à un moment notre République c'est justement de ne plus laisser la place aux religieux dans la manière de dicter nos lois. En revanche, elle n'empêche aucunement les croyants d'être dissociés de leurs croyances. En revanche, quand elles essayent ces dernières-là de s'exprimer dans l'espace public en empêchant les autres libertés, c'est là où elles posent problème. Quelle qu'elle soit, que ce soit le christianisme, l'islam,
ou vous permettez juste de
répondre. Un mot, et puis après on fait une courte pause.
Ce que vous dites, s'agissant des autres, entre guillemets, communautarismes, leur caractéristique, c'est qu'ils s'opposent ponctuellement à des choses, à des lois avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, ce qu'ils ont parfaitement le droit de faire dans le cadre de la liberté de manifester et dans la liberté de s'opposer démocratiquement à des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ce ne sont pas, encore une fois, des communautarismes qui entendent remplacer sur certains territoires les lois de la République par d'autres lois. Ça, c'est une chose. Ce que je disais aussi, c'est que la laïcité, ok, je suis d'accord avec vous, on va dire que c'est pas du tout l'enfant du christianisme ni quoi que ce soit.
C'est historique.
Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la laïcité, de par le fait qu'elle est présente dans le message chrétien, elle ne percute pas la croyance, la philosophie des croyants ou des non-croyants en France. En revanche, le principe de laïcité pose un problème à l'islam, parce que l'islam, et d'ailleurs quand vous allez dans le monde arabo-musulman, à part la Turquie, et la Turquie a été laïque parce que Atatürk a imposé par la dictature la laïcité en l'important d'Occident, et d'ailleurs ils sont en train de revenir dessus.
La laïcité est une spécificité française.
C'est une spécificité occidentale française.
Alors, sur ce débat, dans un instant, on fait à nouveau une courte pause et on va reparler aussi bien sûr de Charlie Hebdo et de cette affaire Daniel Obono de Valeurs Actuelles. À tout de suite.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillot.
De retour dans Les Incorrectibles, émission spéciale laïcité, liberté d'expression, quelle limite, un débat entre Jean Messia et Rose Amézian. Alors, on a beaucoup parlé d'islam, on va à présent parler, si vous le voulez bien, de liberté d'expression et de la presse en particulier. Alors, avant de revenir évidemment sur le procès Charlie Hebdo, un petit mot sur Valeurs Actuelles, puisque cette affaire n'a pas fini d'effrayer la chronique, puisque une enquête a été lancée en début de semaine. Donc, on le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, Valeurs Actuelles a publié un article fiction cet été intitulé Obono l'Africaine, dernier épisode de son roman de l'été, qui chaque semaine faisait emprunter, je cite, les couloirs du temps à une personnalité. La députée à la peau noire y est représentée collier en fer au cou dans un récit de 7 pages où elle, je cite, expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage au XVIIIe siècle. La publication a suscité bien évidemment l'indignation de la classe politique, Emmanuel Macron en tête, qui a fait part de sa condamnation claire de toute forme de racisme, je cite, et jusque même dans les rangs de votre parti, Jean Messia, le Rassemblement National, où certaines voix se sont élevées. Alors, quel est votre position à chacun sur ce sujet? Est-ce que Valeurs Actuelles a dépassé les limites de la liberté d'expression par cette publication, Jean Messia?
Bah écoutez, je crois que c'est un dessin de mauvais goût. Enfin, c'est surtout les illustrations, en fait, qui ont choqué, parce que le texte en lui-même, bon. Mais les illustrations étaient des illustrations de mauvais goût. Maintenant, de là à jeter l'alali sur Valeurs Actuelles en traitant et Valeurs Actuelles et l'ensemble des journalistes de sales racistes, je trouve que c'est un peu exagéré. Je dis que la liberté d'expression est consubstantielle à notre démocratie et elle inclut aussi la liberté de caricaturer.
Il y a encore une liberté de la presse selon vous en France, Jean-Messia?
C'est à se demander. Quand par exemple suite à cet événement le groupe TF1 et LCI virent Geoffroy Lejeune alors qu'ils conservent sur leur plateau la militante racialiste anti-France Rokhaya Diallo, c'est à se demander s'il y a vraiment une liberté de la presse. Je veux dire, la liberté, on peut se sentir, attention hein, je dis pas qu'on peut pas se sentir offensé par certaines déclarations ou certaines caricatures. Moi, je suis un chrétien pratiquant, je suis offensé par certaines caricatures du christianisme qu'a pu faire Charlie Hebdo. Je suis offensé quand France Inter diffuse des artistes qui chantent Jésus est pédé. Oui, je suis offensé. Mais c'est pas parce que je suis offensé que j'irai assassiner qui que ce soit, si vous voulez, ou que j'irai faire du mal à qui que ce soit. Je crois que je suis pas le seul. Des communautés entières, par exemple, les chrétiens ont été offensés tout comme moi, les juifs ont été offensés tout comme moi, mais on s'énerve, la colère est rentrée, on porte plainte.
Mais sur Valeurs Actuelles, là, vous pensez qu'on en fait trop ?
Mais sur Valeurs Actuelles, je pense qu'on en...
Vous pensez que Daniel Obono n'a pas raison
Je pense qu'on en fait trop. Je veux dire, tous les... Il y a énormément d'hommes politiques, je citais sur Chez vos confrères il y a quelques jours, Marine Le Pen avait été caricaturée en étron par Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo est un magazine satirique, vous me direz, mais cette caricature avait été reprise par Laurent Ruquier, en direct à l'antenne.
Ouais,
j'ai pas vu le président de la République appeler Marine Le Pen, qui était aussi une députée de la République, qui est présidente du premier parti de France. J'ai pas vu tous les corps constitués se mobiliser, les ministres se constituer. Moi-même, j'en ai fait les frais. J'ai été publiquement traité de sale bougnoule de service, de tête de chameau.
Par Yacine Bellatar.
Par Yacine Bellatar et par le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Je rappelle ces termes. La comparaison entre Jean Messia et un chameau est infamante pour les chameaux. D'accord? Le président de SOS Racisme qui reçoit des deniers publics pour lutter contre le racisme. Et ça n'a pas fait. Enfin, il y a quelques voix, fort heureusement. Bien sûr qu'il y a deux poids, deux mesures.
Rosa Méziane.
Alors, ce qu'on a pu observer sur cette séquence, c'est qu'au final,
excusez-moi de faire une parenthèse. Quand on le traite de chameau, là, vous l'aviez soutenu.
Il connaît mon opinion, voilà. Puisque effectivement, lors de cette émission, j'ai été
chez Cyril Hanouna.
Cyril Hanouna, exactement. J'ai été, je vais pas dire la seule, mais en tout cas, une personne qui me suis opposée fermement en fait à ce débat, parce que j'estime que ce n'est pas s'insulter, ce n'est pas débattre, se traiter de chameau. De bougnoule, d'islamiste, comme vous avez pu le faire également.
Sauf que c'était vrai.
Je ne pense pas que ce soit. Vous savez, la liberté d'expression, elle a un cadre. Son cadre, c'est la loi, c'est la possibilité de tout dire dans la mesure où on ne diffame pas, on n'injurie pas les personnes.
Et donc là, en l'occurrence, sur l'affaire Daniel Obono,
mais comme M. Messia aurait pu effectivement se saisir de la justice, et ça aurait été son droit le plus. Eh bien, très bien.
C'est en cours, ouais. Le procès va démarrer, là.
Entre vous et Yacine Bellatar?
Non, entre moi et Dominique Sopo, parce que Yacine Bellatar, il est intaquable, c'est un humoriste.
D'accord.
Alors évidemment,
vous confirmez qu'une plainte a été déposée contre Dominique Sopo?
Le procès est en cours, oui.
D'accord.
Et c'est là toute la grandeur de notre droit. C'est à un moment donné, quand on se sent offensé, qu'on estime qu'on rentre dans le cadre de la loi, c'est-à-dire l'injure, l'incitation à la haine raciale ou la diffamation, on a la possibilité de se saisir de la justice et c'est au juge de trancher. Si on regarde effectivement... Que ce soit sur le texte et sur l'illustration, parce qu'il faut aussi effectivement lire la qualité du texte où on ne présente pas Daniel Obono de manière particulièrement flatteuse. Ce sera au juge de trancher et de voir s'il y a une incitation à la haine raciale, s'il y a une forme d'injure. Et d'ailleurs, dans le passé, nombreux sont les personnes du Rassemblement National qui ont porté plainte pour des questions d'injure et qui ont eu gain de cause, notamment à l'égard de journaux.
Oui, enfin, qui ont eu gain de cause, pas souvent, parce que d'abord, la catégorie des humoristes, elle est à part. C'est-à-dire qu'on a le droit, sous prétexte d'humour, on a le droit de tout dire. Alors là encore, c'était vrai dans les années 80. Rappelez-vous, les sketchs de Coluche, de Michel Leeb, où on moquait les Noirs, les Arabes, les Chinois, etc. Ça posait aucun problème. Aujourd'hui, effectivement, les humoristes ont le droit à un certain humour vis-à-vis de la majorité, mais dès qu'il s'agit d'humour vis-à-vis de la minorité, de certaines minorités, eh bien là, immédiatement, c'est une levée de bouclier. On se rappelle, par exemple, de textes qui avaient été virés pour avoir par exemple, dit quelque chose d'assez désobligeant pour les femmes, etc., etc. Je pense que la liberté d'expression, tout le monde en parle aujourd'hui, et tout le monde prétend la défendre, tout le monde est Charlie, mais attention, ça dépend aussi dans quel cadre idéologique elle se trouve.
Daniel Obono parle de racisme systémique, vous partagez ce point de vue?
Mais il n'y a pas de racisme systémique en France. Si vous voulez, le problème, c'est qu'elle incarne, par ce qu'elle est aujourd'hui, exactement le contraire de ce qu'elle fait métier de dénoncer. Elle est députée de la République, Madame Obono. Elle est d'origine africaine, elle est députée de la République française. Donc s'il y avait un racisme systémique, dont je rappelle que la définition est un racisme d'État, c'est-à-dire qui vient du sommet de nos institutions, de nos lois, de notre constitution, il n'y aurait pas de Daniel Obono à l'Assemblée nationale. Il y a 20, et pas seulement elle, il y a 26 députés d'origine africaine à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas dire qu'en France, la France soit un pays raciste, ou en tout cas qu'il y ait un racisme systémique. Il faut à un moment arrêter cette propagande nauséabonde.
Je partage, moi je ne pense pas qu'on ait du racisme d'État, dans la mesure où aujourd'hui chacun a la possibilité de briguer les plus hautes fonctions. Et donc parler de racisme d'État, c'est à mon sens une erreur et on dévie le problème. En revanche, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de racisme d'État qu'il n'y a pas de racisme tout court, et qu'il n'y a pas des discriminations raciales. Ça, c'est la vraie difficulté. Et aujourd'hui, c'est quand même un mal qui gangrène la société française. Parce qu'aujourd'hui, des personnes, pour leur conviction ou pour leur appartenance à une origine, sont stigmatisées, n'ont pas la capacité de louer un logement, n'ont pas la possibilité d'avoir un travail. Et ces discriminations-là sont à combattre. Et c'est tout le principe de notre loi. Mais parler de racisme d'État, je pense que c'est une grave erreur.
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus, Madame Améziane.
Vous êtes pour les discriminations raciales ?
Non. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de racisme systémique. Je l'ai dit, on est en accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, sur les discriminations que vous dénoncez, moi, je ne les vois pas comme des discriminations. Il y a une liberté. Vous avez un logement, vous avez le droit de le louer à qui vous voulez.
C'est-à-dire
qu'on ne peut pas mettre des lois pour obliger les gens à embaucher des personnes.
Non, c'est là où vous
êtes. Parce que, si vous voulez, vous mettez le doigt dans un engrenage qui s'appelle la discrimination positive, parce que vous savez très bien que nous avons en France des gens, des communautés qui estiment qu'elles ont le droit, elles ont des droits.
C'est très dangereux, ce discours-là.
Attendez, non, mais laissez-moi. Vous allez avoir tout le loisir de me répondre, mais laissez-moi juste aller au bout de mon raisonnement. Je pense qu'en France, nous avons des communautés religieuses, des communautés raciales, puisque c'est les racialistes qui le disent eux-mêmes, les communautés racisées, pardon, puisque c'est le nouveau mot à la mode, qui prétendent que simplement parce qu'ils ont une couleur de peau ou une religion différente, ça leur donne des droits qui outrepassent la problématique de la méritocratie républicaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis arabe, je suis noir, j'ai un droit parce que je suis essentialisé comme tel. Mais c'est le pire des racismes, ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je crois en la méritocratie républicaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens cherchent à s'intégrer par le travail, par les efforts, par l'assimilation d'un certain nombre de traits identitaires français, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai des tas d'amis qui sont parfaitement assimilés à la France et qui ne vivent aucune discrimination. Moi-même, on peut pas dire que j'ai la tête d'un Suédois. Je n'ai jamais vécu. Alors, c'est vrai que j'ai échoué. C'est vrai que ça a été difficile par moments, que j'ai été chercher du travail pendant un an en envoyant. Mais pourquoi, à chaque fois que j'échoue, je dois me dire, ah oui, mais je dois me regarder dans une glace en disant, bah ouais, mais parce que t'es arabe, mon pote, t'auras jamais de boulot. Moi, je fonctionne pas comme ça. Parce que si vous êtes blonde aux yeux bleus comme vous et que vous échouez, quel racisme vous allez pouvoir mettre en œuvre?
Je vais répondre à ce que vous êtes en train de dire parce que, c'est particulièrement dangereux, ce discours. Parce que monsieur vient essayer de nous faire une démonstration pour nous faire croire, en fait, que la loi permet à des employeurs de discriminer.
Non, au contraire.
Que la loi permet de discriminer.
C'est le contraire que j'ai dit. Hein.
Mais non, mais vous parlez de discrimination positive. Je suis désolée, la loi aujourd'hui ne permet pas la discrimination positive.
Et tant mieux. Tant mieux.
Ce que vous nous avez dit clairement, et on pourra regarder les images et repasser les bandes son si nécessaire, vous avez dit clairement, aujourd'hui, on refuse à une personne de refuser un emploi parce que la personne serait arabe.
Non,
oui, monsieur.
Ça, c'est la loi. Oui, mais c'est la liberté.
Oui, mais non, c'est pas la
liberté. Comment vous allez forcer quelqu'un à louer son logement ou à faire bosser quelqu'un qui veut pas?
Si son critère.
Ah, mais non, mais ça, vous le savez pas.
Si son critère, et c'est toute la difficulté de la récolte de preuves. Mais si son critère. Oui, mais c'est pas le même discours. Je suis désolée.
C'est exactement ce que je dis.
C'est
exactement ce que je dis.
Pardonnez-moi, je vous ai écouté sincèrement. Si vous écoutez toutes les deux, ça va être compliqué. Moi, je veux bien vous répondre. Aujourd'hui, expliquer qu'un employeur a le droit de ne pas accepter en fait un emploi parce que la personne serait arabe ou musulman ou handicapé, c'est interdit par la loi. Et je pense qu'il faut le marteler et le marteler fermement. Parce que justement, si la méritocratie est possible comme vous en avez été, la preuve
pas
parfaite,
seulement moi, hein, d'autres.
Vous et d'autres, on est bien d'accord, mais là vous êtes en face de moi,
je prends pour exemple.
Si elle est possible dans la mesure où on respecte la loi. Elle est possible dans la mesure où on regarde à travers une personne ses compétences et sa capacité en fait à faire grandir une entreprise. Moi, quand je vois Monsieur Messia, je vois pas un arabe. Moi, quand je vois Monsieur Messia, je ne vois pas une personne qui serait potentiellement de confession copte, musulmane ou peu importe. Voilà. Je vois un Français. Bah, voilà. Et donc, c'est aussi le regard que doivent avoir chaque employeur, chaque propriétaire qui doit louer son logement. Oui. Et faire croire le contraire, c'est une grave erreur et c'est pleinement anti-républicain.
Vous avez parfait. Je souscris à tout ce que vous venez de dire. Je dis simplement que, effectivement, à moins de publier une annonce où vous dites pour mon logement, je ne veux pas de noir, je ne veux pas d'arabe,
Monsieur,
je ne veux pas
de
chinois.
Effectivement,
mais personne ne fait ça. Et ceux qui font ça vont à juste titre au tribunal.
Si je peux juste répondre. Voilà. Toutes les enquêtes de testing aujourd'hui le prouvent, que ce soit sur le logement, que ce soit sur le logement de loisirs, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur le contrôle aussi.
Mais pourquoi c'est toujours la faute de la France, ça, je ne comprends pas.
Non, mais là, vous êtes en train de m'expliquer que quelque chose n'existe pas. Moi, je suis en train de vous dire que des études le montrent par A plus B. Nier, en fait.
C'est pas ça. Moi, je ne nie pas. Je dis simplement pourquoi accabler la France avec ça. Pourquoi ne pas considérer que les demandeurs ne font pas les efforts nécessaires pour entrer dans les
clous ?
Quand
c'est caractérisé par une enquête de testing et qu'on répond clairement à une personne dans les modalités de recrutement, on dit clairement, notamment sur les hôtesses d'accueil, on ne veut pas d'arabe ou de noir.
J'ai jamais vu ça. Alors si c'est ça, il faut porter plainte.
Ça tombe sous le coup de la loi.
Je peux vous ressortir si vous voulez, en fait, au prud'homme, des entreprises d'hôtesses qui le réalisaient. Alors après, parfois, de manière un peu insidieuse, en expliquant qu'on ne voulait que des blondes, parce qu'effectivement, c'est compliqué de trouver une blonde africaine. Enfin voilà, aujourd'hui, faire croire que ça n'existe pas, honnêtement, ça ne règle pas le problème. Je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à la racine du mal pour pleinement retrouver nos valeurs
Pour le Tour de France, les hôtesses, c'est fini, donc il n'y aura pas ce problème.
Eh bien voilà, on en reparle dans un instant avec Jean Messia et Rosa Méziane dans Les Incorrectibles. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
Dernière partie de l'émission et de ce débat, donc à l'occasion de cette émission spéciale Laïcité, liberté d'expression, quelle limite entre Jean Messia et Rosa Méziane. Alors on parle évidemment aussi du procès Charlie Hebdo qui s'est ouvert cette semaine. Alors laïcité, liberté d'expression, on est en plein au cœur du sujet. Votre avis pour ou contre la republication de ces caricatures, est-ce qu'elles sont une provocation à vos yeux, Jean Messia ?
Bah écoutez, en France, la presse est libre, donc je vois le côté symbolique qu'il y a à republier ces caricatures. Ils ont la parfaite liberté de le faire et je pense que c'est un acte de courage que de le faire. Attention, la liberté d'expression, c'est là, peut-être je précise, elle n'est pas à sens unique. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez publier ce genre de caricature, mais on a aussi le droit de dire à ceux qui caricaturent des choses qui nous plaisent pas, de leur dire vous publiez de la merde et vous êtes des enfoirés. Ça fait aussi partie de la liberté d'expression. Voyez ? Donc la liberté d'expression, c'est on peut agir, exprimer, dessiner, caricaturer, critiquer, mais on peut aussi répondre.
Mais là, en l'occurrence, vous soutenez ou pas, indépendamment du fait qu'ils aient le droit, comme vous le rappelez à juste titre, est-ce que ça vous interpelle ?
Liberté d'expression, et ça a été, on l'a rappelé tout à l'heure avec Madame Améziane, la liberté d'expression, elle est encadrée par la loi. Si certaines personnes estiment qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont qu'à porter plainte. À partir du moment où les gens ont le droit de faire, je soutiens que les gens puissent s'exprimer librement dans le cadre de la loi. Donc Charlie Hebdo a parfaitement le droit de le refaire.
Rosa Méziane.
Non, je pense que ça ne devrait même pas faire débat. Oui, j'avais parfaitement le droit la première fois de les publier, la seconde fois de les republier. Et je crois que d'autres journaux, en termes de symboles, l'ont également republié. C'est très bien, c'est le principe de la liberté d'expression. Et je crois savoir que les associations qui avaient tenté de les assigner ont été déboutées. Donc,
On doit défendre plus encore le droit au blasphème, selon vous, de...
Ah bah écoutez, le droit au blasphème, bien sûr, ça fait partie aussi de la liberté d'expression. Mais c'est là précisément où nous rejoignons l'exergue de notre débat, à savoir pourquoi ces caricatures posent un problème particulier. Pourquoi, quand on a caricaturé le Christ de manière odieuse, ça n'avait pas posé un tel problème? Ou quand on a caricaturé des rabbins, ça n'avait pas posé un tel problème? Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une caricature de l'islam, ou des personnages de l'islam, on en est à se poser cette question. Pourquoi, lorsqu'il s'est agi de caricaturer le judaïsme, l'islam, puis d'autres, tout le monde a applaudi des deux mains, tous les médias gauchisants, gauchistes, etc., ont applaudi en disant « bravo, vous êtes courageux », et subitement, lorsqu'ils se sont mis à caricaturer les musulmans, il n'y a plus personne. Tout le monde s'est carapaté, tout le monde s'est aplati. Pourquoi ? Et donc, ça rejoint le débat que nous avions au début, c'est qu'effectivement, nous avons, et je le répète, une religion en France, en tout cas une certaine interprétation de cette religion, à qui la laïcité pose problème, et qui pose problème à la laïcité, à qui la liberté d'expression pose problème, le droit au blasphème pose problème, et à qui, eh bien, le droit de la libre expression et le droit de la laïcité pose problème. Voilà.
Donc l'islam pose problème à la laïcité. Voilà ce que dit Jean Messia, Rosa Méziane, une réaction ?
Alors, c'est faut faire attention en fait à ce qu'on dit, et je, Monsieur Messia a nuancé, parce que aujourd'hui personne ne dit que le terrorisme islamique n'est pas un problème en France. Pas l'islam, mais le terrorisme islamique en France. Personne ne cherche à le.
Bah
à
si
le,
quand
à...
même. Excusez-moi, mais le dernier sondage, vous avez vu combien de personnes soutiennent le fait que les journalistes de Charlie Hebdo aient été massacrés.
Monsieur,
donc c'est pas personne, c'est une minorité, mais c'est pas personne.
Oui, parce que je crois qu'il nous a pas échappé.
21% voilà. de l'ensemble des jeunes français de 15 à 24 ans ne condamnent pas les attentats, et 26% alors, chez les jeunes de confession musulmane.
Voilà, donc un quart quand même, c'est pas rien.
Je ne vais pas venir ici démonter cette étude, notamment sur la manière dont certaines questions ont été posées, mais je crois, Monsieur Messia, qu'il ne vous a pas échappé que lors de la tuerie de Charlie Hebdo, Monsieur Ahmed Merabet, français de confession musulmane, qui portait l'uniforme républicain, a tenté d'arrêter cette idéologie mortifère. Je crois qu'il ne vous a pas échappé non plus.
Non, mais pas du tout. Je lui ai rendu hommage, d'ailleurs, au même titre que tous les...
Le fils de Latifa Ibziaten, Imad Ibziaten, qui portait l'uniforme, a été assassiné par un terroriste, Mohamed Merah. Je crois qu'il ne vous a pas échappé non plus que c'est grâce au Maroc qu'on a pu arrêter les terroristes du Bataclan qui se cachaient à Non mais c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle d'islam, on englobe les musulmans. Je crois qu'il est important ici de rappeler
pas
la différence entre des Français de confession musulmane et des islamistes ou des terroristes. Et ne pas le faire, je crois savoir quand même sur une chaîne El Rada à l'étranger, vous avez parfaitement fait
vrai.
La différence
mais
entre les terroristes et les islamistes
oui.
dans un arabe parfait. Et je crois que c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas de double discours à avoir.
Mais...
Il y a les Français de confession musulmane d'un côté qui respectent pleinement la République et qui ont eu à mourir aussi pour la défendre. Et il y a de l'autre côté des terroristes qu'il faut traquer avec la plus grande fermeté et avec la plus grande détermination.
Mais moi, si vous voulez, loin de moi l'idée, alors là, c'est vraiment aux antipodes de ce que je pense, et vous me faites presque insulte en disant cela, loin de moi l'idée de dire que tous les musulmans sont des terroristes. Enfin, c'est de la folie furieuse de penser une chose pareille. En revanche, je suis au regret de vous annoncer que tous les terroristes sont effectivement musulmans, ou en tout cas prétendent l'être. Ça, c'est un fait, d'accord ? Donc, le problème, c'est effectivement, il y a l'islam et les musulmans. Les musulmans ne se réduisent pas à l'islam. Moi, je ne réduis jamais quelqu'un à sa croyance. Vous voyez, un musulman, c'est d'abord un citoyen s'il est français ou résident, s'il a une carte de résident. En tout cas, c'est un sujet de droit avant d'être un sujet ou un objet religieux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui m'inquiète, moi, si vous voulez, c'est que c'est vrai que ceux qui ont perpétré ces attentats contre Charlie Hebdo, c'était une minorité. Mais le problème, c'est que derrière... Vous avez quand même énormément de personnes qui, ne pouvant jamais faire une chose pareille, n'en ont pas moins, été très timorées, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la condamnation de l'acte. Il y a énormément de musulmans en France qui, bien que condamnant la tuerie, etc., n'ont pas condamné l'acte qui a consisté à venger le prophète. Voilà. Donc ça, c'est très inquiétant. Quant au sondage, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est pas parce que vous avez 40% des musulmans qui considèrent que les lois religieuses sont supérieures aux lois de la République, dont 75% des moins de 25 ans.
Vous savez, vous demandez à n'importe qui, vous préférez Jésus ou Emmanuel Macron, vous serez sûrement surpris des réponses.
Non, mais d'accord, mais c'est pas. Oui, mais alors ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, moi, ce qui m'interroge, c'est le pourcentage des jeunes. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une tendance de fond. La deuxième chose, c'est prenez une ville comme Molenbeek en Belgique.
Alors,
je termine juste là-dessus. Molenbeek en Belgique, 100 000 habitants, d'accord, dont une très forte proportion de musulmans. Eh bien, ils viennent d'autoriser le port du voile islamique par les employés municipaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à
ce
bout...
Ce qui n'est pas du tout notre loi.
Mais non, mais justement,
parce que la neutralité de l'État...
Mais penser que la loi française va rester la loi française simplement parce que la France est la France, non, c'est une naïveté sans nom. Le poids du nombre et de la croyance finit par faire changer les institutions.
Allez, Rosa Méziane, et après on parle de la polémique d'Armanin.
Je pense au contraire que nos valeurs sont suffisamment fortes et qu'au contraire, notre loi de 1905, et ça ne date pas d'aujourd'hui, est suffisamment claire pour régir un petit peu notre droit. La neutralité aujourd'hui de l'État, la séparation des églises et de l'État, la neutralité des agents du service public, que vous soyez policier, enseignant ou agent d'une mairie, elle s'exerce de la même manière. Donc moi, je ne crois pas que notre République est en train de vaciller. En revanche, ce sondage, il peut interpeller en un sens, d'une part parce qu'on s'aperçoit que, effectivement, des personnes qui ne seraient pas de confession musulmane ne condamnent pas non plus certains attentats. Ça pose une vraie question. Et puis, on parle de jeunes de moins de 25 ans, et c'est aussi pour ça que l'éducation est là. C'est aussi pour ça que l'éducation populaire est existante, parce qu'on est sur des jeunes qui sont en construction intellectuelle, on est sur des jeunes qui sont parfois en défiance à l'égard de la société, et on a tout un travail à renforcer à l'égard de cette jeunesse, d'une part pour leur expliquer qu'ils font partie de la nation, mais surtout pour leur expliquer tous les contours de nos valeurs républicaines.
Madame Amézienne, juste le problème, c'est qu'en fait, ce que vous décrivez là, et je suis d'accord avec votre constat, c'est pas le début d'une entreprise d'éducation pour arriver à les faire changer. C'est le résultat de 40 années de désagrégation scolaire, de désagrégation de l'éducation, etc. Donc là, nous récoltons le fruit de l'idéologie multiculturaliste, de l'idéologie du vivre ensemble, etc.
Pour finir, parce que dans 2 minutes, on arrive au terme de ce débat. Une réaction donc suite à l'emploi de ce terme ensauvagement donc par Gérald Darmanin et donc évidemment qui faisait suite à ce sentiment plutôt de ressenti d'insécurité que décrit pour sa part Éric Dupond-Moretti. Un mot là-dessus, vous auriez employé ce terme d'ensauvagement?
Non mais Monsieur Moriot, le problème que vit la France de l'insécurité, de la violence, des sauvageries, etc. ne se réduit pas à des considérations sémantiques. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un terme qui reflète, qui dit la réalité, il faut le prendre. Vous avez bien vu que cet été,
alors Éric Dupond-Moretti dit que la violence n'augmente pas, que c'est un ressenti d'insécurité.
Non mais Éric Dupond-Moretti, si vous voulez, c'est le garde des Sceaux qui ne voit rien, qui n'entend rien. On n'a pas l'impression qu'il habite en France. C'est-à-dire que il peut y avoir 3 milliards de faits divers, il se contentera de vous dire que c'est juste un sentiment. Et donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a effectivement un lien entre l'ensauvagement de la société et certaines immigrations. La preuve, c'est qu'effectivement suite à la fermeture des frontières pendant l'été d'un certain nombre de pays du Maghreb qui ont obligé les jeunes issus de l'immigration à rester en France, eh bien, il y a un pic de violence. Ça aussi, c'est un fait.
Alors, pour finir. Je ne vais pas pouvoir avoir le temps de répondre à toutes les... Mais on aura l'occasion peut-être d'en débattre. Mais deux choses que j'avais envie de dire. La première, c'est que c'est quand même assez inquiétant qu'on s'attache à des mots. Moi, je préfère avoir des actes, notamment sur la question de la sécurité. Ce qui est inquiétant encore, c'est qu'on a au final...
Il faut poser le bon diagnostic aussi.
Et c'est qu'on a au final deux visions sécuritaires qui s'opposent. L'un au ministère de la Justice, l'autre au ministère de l'Intérieur. Et ça paraît inquiétant pour la suite à donner, parce que ces deux ministères sont obligés de marcher de pair pour que ça fonctionne, pour lutter contre la délinquance. Et la dernière chose pour couper, je ne suis pas venue les mains vides, je suis venue avec un petit cadeau pour vous, qui est La laïcité pour les nuls, rédigé par Nicolas Cadenne. Mais je vous invite à lire, parce qu'il y a eu certaines choses que vous avez dites durant l'émission qui ne sont pas complètement correctes.
Mais
je vous invite à lire, en tout cas, c'est offert de bon cœur.
Je prends ça avec humour, parce que je ne pense pas être nul sur la laïcité, j'en suis moi-même le fruit, puisque je ne suis pas né dans un pays laïque, et donc je pense que c'est me faire quelque peu insulte.
C'est une petite note. Nombreux sont ceux qui l'ont lu, parce qu'aujourd'hui, la laïcité est quand même une notion qui est complexe. Quand on explique aux Français, et j'ai d'ailleurs une étude qui avait été faite par Vivoice, lorsqu'on explique cette notion, elle est bien comprise. Mais aujourd'hui,
La laïcité, Madame Amézienne, n'efface pas le passé. C'est ça ce que je veux vous dire. La laïcité, elle s'applique au présent.
De la même manière qu'elle n'efface pas les croyances.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce débat extrêmement courtois. Je vous remercie pour cela. Entre donc Rose Amézienne et Jean Messia. On se retrouve la semaine prochaine à 13h dimanche dans Les Incorrectibles. Bonne fin de journée sur Sud Radio.